de ce qui s'est passé avec la tour de Babel, et vous verrez que ça a un sens. Et vous verrez que le troisième point, c'est que la Pentecôte, eh bien, elle est comme une nouvelle fête des prémices d'une autre moisson. Alors oui, la Pentecôte accomplit bien la promesse de Jésus en acte 1, verset 8. Avant de repartir auprès de son Père, Jésus passe du temps avec ses disciples et il leur dit notamment « Le Saint-Esprit descendra sur vous ». Là, il parle à ses apôtres. « Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde ». Jésus leur dit « Vous serez mes témoins ». Et quand Luc rapporte ce qui s'est passé dans le livre des Actes et quand il rapporte aussi ce qui s'est passé dans son évangile, Luc utilise les mots avec un sens qui veulent dire quelque chose. Et quand il parle de témoins, eh bien, ce qu'il veut dire, c'est le sens de celui qui va donner un témoignage lors d'un procès, dans un tribunal, pour attester la conduite d'une personne. Et du coup, les apôtres, ils sont témoins de Christ dans le sens où, grâce au don des langues à la Pentecôte, ils vont pouvoir raconter les merveilles de Dieu à toutes les personnes qui sont là et qui ne sont pas de Jérusalem. Grâce à ce don des langues miraculeux que Jésus fait, ils vont pouvoir témoigner à tous ces gens qui viennent d'un peu partout dans le monde ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, notamment tous les miracles, mais aussi, et c'est important, sa mort et sa résurrection. Les apôtres, ils étaient là pendant tout le ministère terrestre de Jésus. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait, ils ont vu sa mort, ils ont vu sa résurrection, il nous est dit, ils ont mangé avec lui également, et du coup, toutes ces choses-là, maintenant, ils vont devoir les raconter, ils vont devoir témoigner à d'autres de ce qui s'est passé quand Jésus était sur terre, et c'est pour pouvoir témoigner de toutes ces choses, pour pouvoir les raconter à d'autres, que Dieu leur permet de parler des langues qu'ils n'ont pas apprises. L'Esprit, ici, ne vient pas sur les apôtres comme s'ils venaient de se convertir à ce moment-là. L'Esprit, au moment de la Pentecôte, vient sur les apôtres parce que les apôtres ont besoin d'être qualifiés par Dieu pour leur mission d'évangélisation. On voit que Dieu envoie sur eux le Saint-Esprit pour qu'ils puissent parler d'autres langues, qui sont des langues, encore une fois, qu'ils n'ont pas apprises, pour qu'ils puissent faire des disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Ça, c'est l'ordre de mission que Jésus leur laisse, notamment à la fin de l'évangile de Matthieu. Vous irez et vous ferez des disciples, vous leur apprendrez à appliquer tout ce que je vous ai dit, etc. L'Esprit donne aux apôtres la capacité de parler ces langues nouvelles pour qu'ils puissent témoigner à ces gens de toute langue, de toute culture et qui viennent d'autres pays, et bien qu'ils puissent leur témoigner de toutes les merveilles de Dieu, de toute l'œuvre de Christ sur terre, de sa mort et de sa résurrection et du fait que du coup, aujourd'hui, il vit. Le fait qu'ils puissent parler d'autres langues, ça rend le message de l'Évangile accessible à d'autres personnes. J'ai une amie à moi qui vivait avant au Japon et qui me disait « Au Japon, les gens ne parlent pas du tout anglais. » En fait, ils parlent japonais, mais ils ne parlent pas vraiment d'autres langues. Ils ne sont pas très, très ouverts à d'autres langues. Et elle me disait, du coup, souvent, quand les étrangers viennent, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent en photo sur leur téléphone toutes les choses qu'ils auront besoin de demander et ils montrent leur téléphone. Parce que ben, souvent, les gens ne parlent pas japonais. Et vu que les japonais ne parlent même pas l'anglais, qui est en général une langue qui est maîtrisée plus ou moins par beaucoup de personnes, ben, vu qu'ils ne parlent pas anglais, eh bien, ils sont obligés de trouver un autre moyen de communication. Alors là, on peut se dire que ça aurait été fastidieux si les disciples et les autres personnes qui étaient là avaient dû trouver un autre moyen de communication. Mais on voit que Jésus, que Dieu a fait en sorte qu'ils n'aient pas besoin de trouver un autre moyen de communication. Il leur a donné les langues dont ils avaient besoin pour pouvoir parler et raconter tout ce que Christ a fait. Alors bien sûr, si moi demain vous venez me voir et que je vous réponds en créole, je pense que vous allez être un peu étonné. Moi, je ne parle pas créole. Je parle même pas alsacien, je comprends l'alsacien, mais je ne sais pas le parler. Et du coup, ben, il y a quand même des réactions qui sont un peu particulières pour ces gens-là. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ils sont perplexes, ils ne comprennent pas, ils disent, mais tous ces gens, c'est des Galiléens, ce n'est pas forcément en plus des personnes qui ont une très grande éducation ou qui ont fait forcément beaucoup d'études. Il y en a, on le sait, hein, qui étaient pêcheurs, etc. Donc ce n'est pas forcément des gens où on se dit, ils ont fait plein d'études et ils ont appris des langues nouvelles. Du coup, les gens se disent, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ils sont perplexes, ils ne comprennent pas. Ils entendent que ces gens qui sont galiléens parlent dans leur langue, mais ils ne savent pas comment ça se fait qu'ils soient capables de parler dans leur langue. Et il y en a d'autres. Alors bien sûr, il y a toujours des cyniques et il y a toujours des gens qui préfèrent tourner en dérisoire les choses qui se passent. Il y en a qui disent, oh ben c'est simplement le vin doux, ils ont trop bu. Alors si le jour où vous avez trop bu, vous arrivez à parler des nouvelles langues terrestres, prévenez-moi parce que ça m'intéresse. j'aimerais bien parler plus de langues. Alors, s'il suffit de boire du vin sans que ça ait de mauvais effets autres, moi, je veux bien boire un peu de vin et parler des langues nouvelles. Mais on voit, voilà, il y a ces deux types de réactions. D'un côté, ceux qui sont étonnés et les autres qui disent « Ah, c'est juste, ils ont trop bu, c'est tout ». Donc, ça montre aussi que certaines personnes qui étaient là, ben, elles n'étaient pas capables de comprendre les langues que les apôtres parlaient, puisqu'ils ont l'impression que c'est juste qu'ils ont trop bu et que du coup, ils disent des trucs incompréhensibles. Donc, on voit bien qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient comprendre certains apôtres et d'autres qui pouvaient en comprendre d'autres et que ben, on pouvait, tous ceux qui étaient présents ne pouvaient pas forcément comprendre les nouvelles langues que les apôtres parlaient. Mais l'esprit que Jésus il a promis en acte 1, verset 8, eh bien, il est bel et bien venu sur les apôtres. Il est bel et bien descendu le jour de la Pentecôte. Et ils ont bel et bien été témoins de Christ, ils ont bel et bien raconté ce qu'il a fait à partir de ce moment-là. On le voit notamment avec la prédication de Pierre, par exemple, qui va suivre. Et du coup, on voit que ce qui s'est passé ici, ça a aussi une importance pour nous. On n'est pas plus de 2000 ans en arrière, on n'est pas les apôtres, on n'est pas à Jérusalem. Mais pour nous aussi, le fait que le Saint-Esprit soit avec nous, c'est important pour les fois où on évangélise, où on témoigne, nous aussi, de Jésus-Christ. Parce qu'on peut dire toutes les meilleures vérités du monde sur la Bible, sur Jésus, sur ce qui est écrit, si le Saint-Esprit n'est pas présent avec nous et que le Saint-Esprit ne travaille pas dans le cœur des personnes qui sont en face, eh ben ça fera un flop. Ça ne marchera pas. Parce que quand on cherche le Seigneur, quand le Seigneur veut se faire connaître, ce n'est pas juste par une espèce de sagesse humaine ou notre intelligence ou autre qu'on peut comprendre. Dieu utilise aussi ces moyens-là pour nous aider à comprendre. Il touche ces capacités-là chez nous par son esprit pour qu'on comprenne. Mais c'est parce que le Saint-Esprit agit en nous qu'on est capable de reconnaître que la Bible, c'est vrai. Comment ça se fait que des gens qui ont été des fois dans l'Église pendant 30 ans, ils écoutent des choses, ils ne sont toujours pas convertis et un jour, ils se convertissent? Et souvent, les gens comme ça, ils disent « Avant, j'étais là, je pensais que j'avais compris, mais je n'avais pas compris. Et un jour, je ne sais pas, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris vraiment. » Et ça nous montre que tout comme les apôtres avaient besoin que le Saint-Esprit soit avec eux pour leur tâche d'évangélisation, eh bien, nous aussi, on a besoin que le Saint-Esprit soit avec nous quand on parle de Dieu à d'autres personnes. Parce que si c'est juste notre tâche, alors c'est inefficace. Alors, c'est sûr, nous, on n'est pas témoins de Jésus comme les apôtres. Peut-être que vous, vous étiez là quand il y avait les apôtres. Si c'est le cas, vous êtes très bien conservés parce que ça ne se voit pas que vous avez plus de 2000 ans. Mais nous, on n'est pas témoins de la même manière que les apôtres. De façon stricte, il y a quelque chose quand même qui est différent. Nous, on n'a pas été enseignés par Jésus, on n'a pas vu sa mort et sa résurrection de nos propres yeux, mais on est témoins de Jésus-Christ au travers de la parole qui a été consignée pour nous, notamment par certains apôtres et d'autres personnes proches d'eux. Et du coup, comme on a ces paroles-là et qu'on sait qu'elles sont vraies et qu'elles sont véridiques, on peut témoigner de Jésus-Christ sur la base de la parole parce qu'on sait que la parole a toute autorité. Et dans ce sens-là, on peut témoigner de Jésus. Et on peut aussi témoigner de Jésus sur la base de notre expérience personnelle. On peut dire aux gens, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce qu'il a transformé. Voilà comment est-ce qu'il m'a parlé. Voilà comment j'en suis venu à comprendre certaines choses sur ma personne, sur la réalité de Dieu, etc. Donc nous, on est témoins, mais on est témoins grâce à ce que les apôtres ont consigné pour nous. On n'a pas vu Jésus-Christ de nos propres yeux sur la croix, on n'a pas vu sa mort, sa résurrection, on n'a pas mangé avec lui. Un jour, on mangera avec lui. Mais nous, on n'a pas vu ces choses-là. Et du coup, si on peut témoigner de Jésus, c'est grâce à ce qu'on a vécu, mais aussi grâce à ce que la parole nous a dit et laissé au travers des écrits des apôtres et de ceux qui étaient proches d'eux. Et du coup, on voit bien ici que la Pentecôte, elle a accompli ce que Jésus avait promis. Jésus a dit « J'enverrai mon esprit et grâce à cet esprit, eh bien, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. » Alors là, ce n'est pas encore jusqu'au bout du monde. Pour l'instant, c'est que Jérusalem. Mais on sait, notamment avec Paul, que l'évangile, c'est bien aller jusqu'au bout du monde. Et c'est un événement qui est unique dans l'histoire de l'Église. Et c'est un événement aussi qui est particulier sur bien des aspects. Et notamment parce que, en fait, la Pentecôte, ben, c'est un événement qui est tout à fait différent, tout à fait à l'inverse de ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Alors là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben, je vais continuer, comme ça vous saurez. Je vais lire dans Genèse 11. Vous pouvez soit écouter, soit vous pouvez chercher si vous avez envie. Mais je vais simplement faire une courte lecture dans Genèse 11 pour nous remettre un petit peu dans le contexte de ce que nous raconte Genèse chapitre 11. Voilà ce qui nous est dit. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, Ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. Et c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Alors peut-être que la lecture vous a laissé entrevoir des éléments de réponse, mais en quoi est-ce que la Pentecôte est un événement à l'inverse de Babel ? On voit dans le chapitre 11 qu'à l'époque, il y avait un seul peuple qui avait une seule langue. On peut voir qu'ils ont un projet commun, c'est de construire une tour qui aille jusqu'au ciel, et leur but c'était d'être connus des autres. Et on voit qu'eux veulent monter, et on voit finalement que ce n'est pas eux qui montent, c'est Dieu qui descend. Dieu qui descend, il vient voir ce qui se passe, il voit que les hommes essayent de monter jusqu'au ciel et du coup il décide de les disperser pour pas qu'ils accomplissent les projets qu'ils avaient. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait pour les disperser ? Eh bien tout simplement, il va amener une confusion entre les langues. Les gens vont plus être capables de se comprendre. Du coup, quand on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas faire des projets communs si on n'est pas capable de se comprendre. Du coup, ils ne peuvent pas mener leurs projets à bien et du coup, ils se dispersent. Ceux qui parlent la langue X, ils vont tous ensemble quelque part. Ceux qui parlent la langue Y, etc. Ceux qui parlent la langue Z. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Chacun reste avec les gens qu'il arrive à comprendre. Mais du coup, ils ne peuvent pas mener à bien leur désir de monter cette tour. Et on peut voir qu'à la Pentecôte, c'est des gens justement qui eux aussi se trouvent partout autour de Jérusalem, qui eux aussi sont dispersés autour de Jérusalem, qui viennent tous à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. La loi, elle prévoyait qu'on vienne à Jérusalem pour la Pâque, pour la Pentecôte et pour la fête des cabanes. Et du coup, là, tous ces croyants juifs qui sont dispersés autour de Jérusalem, ils se rassemblent tous à Jérusalem. Et du coup, comme ils sont tous à Jérusalem, Dieu vient par le Saint-Esprit vers ces hommes qui viennent de partout. Il vient vers eux au travers des apôtres en leur donnant la capacité de parler la langue de ces gens qui viennent de partout. Verset 6 du chapitre 2 du livre des Actes. « En effet, chacun les entendait parler dans sa langue. » Dieu, il avait utilisé le fait qu'il y ait diverses langues pour éloigner les hommes et pour les empêcher de mener à bien leur projet vers le ciel. Ici, Dieu, il va utiliser justement les langues qui avant étaient source de dispersion pour, au contraire, amener à lui des gens qui viennent de partout. À un moment, Dieu a dit « Maintenant, je mets les langues et les hommes vont tous se disperser. Ben, » Maintenant, ces hommes qui sont tous dispersés, ils viennent tous à Jérusalem. Et au travers de ces langues qui ont causé la dispersion, eh bien moi, je vais tous les ramener à moi. En permettant aux apôtres de leur parler dans une langue qu'ils comprennent. Il n'y a plus de dispersion au travers des langues. C'est un retour à Dieu, grâce aux langues. Et 3000 personnes vont se convertir à la prédication des apôtres après le discours de Pierre. À Babel, les hommes qui formaient un seul peuple sont dispersés. À la Pentecôte, Dieu rassemble les hommes de toutes langues, par les langues, pour en faire un seul et nouveau peuple. À l'époque de Babel, il y a un seul peuple avec une seule langue. À la Pentecôte, il y a un seul peuple avec des langues multiples que Dieu utilise pour se révéler à plus de 3000 personnes. La langue, elle aurait pu être une barrière pour l'évangile. Eh bien, c'est le canal que Dieu décide d'utiliser. C'est le canal privilégié de Dieu pour se faire connaître à tous les hommes. Dieu, il aurait très bien pu faire que tous les gens qui étaient présents, ils soient capables de comprendre ce que disaient les apôtres, même si les apôtres ne parlaient pas leur langue. Mais Dieu a fait le contraire. Dieu, il a dit, finalement, ce que je vais faire, c'est que par mon Saint-Esprit, je vais qualifier mes apôtres en leur permettant de parler les langues adéquates pour que tous ces gens qui viennent de partout autour de Jérusalem, ils puissent comprendre l'Évangile. Dieu, il se rend accessible à tous dans leur propre langue, afin que l'ordre de mission des apôtres de faire des disciples de Christ, il puisse s'accomplir. Et aujourd'hui encore, la transmission de l'Évangile, elle se fait dans toutes les langues. On n'a pas une espèce de langue sacrée, par exemple, qu'on devrait avoir. On n'a pas besoin de parler hébreu ou de parler grec pour pouvoir comprendre la parole. Ça aide dans certains domaines pour trancher sur certaines questions, etc. Mais ce n'est pas primordial. le message de l'Évangile, il est accessible sans avoir à parler ces différentes langues. L'Alliance biblique française, en 2015, elle a donné quelques statistiques, alors j'imagine que ça a un petit peu évolué, mais c'est déjà intéressant de regarder celle-là. La Bible complète, elle a été traduite, en tout cas en 2015, elle a été traduite en 457 langues différentes. Il y a 1240 langues qui possédaient au moins un des testaments, soit l'ancien, soit le nouveau, traduit dans sa langue. Il y a au moins 823 langues et dialectes qui ont un livre de traduit. La Bible, ça existe même en alsacien. Je ne le parle pas, mais je suis content pour les personnes les plus âgées d'Alsace qui peut-être comprennent très mal le français et qui peut-être un jour rencontreront le Seigneur parce qu'elles auront lu la Bible dans une langue, dans un dialecte qu'elles comprennent. Et si c'est vrai pour l'alsacien, ça doit être vrai pour d'autres dialectes que peut-être vous vous parlez. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les cultures, elles peuvent continuer de croire en Christ et de se convertir sur la base de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est accessible dans leur langue, pour qu'ils puissent comprendre pour eux-mêmes. Ce que les disciples, ils ont commencé à la Pentecôte, grâce au Saint-Esprit que Dieu a envoyé sur eux en les qualifiant et en leur permettant de parler de nouvelles langues, eh bien nous, on peut le continuer aujourd'hui en utilisant la parole, en utilisant les langues qu'on sait parler, mais on continue cette tâche que les apôtres ont commencé en nous appuyant sur ce qu'ils nous ont laissé dans la parole et en nous appuyant sur toutes ces Bibles, sur tous ces outils qui permettent d'avoir l'Évangile accessible. Et aujourd'hui, bah même si on ne sait pas lire, si on a simplement des oreilles, eh ben on peut entendre l'Évangile parce qu'il existe des dispositifs qui permettent d'avoir l'Évangile dans tout plein de langues. Si on a un téléphone, on peut avoir des applications gratuites où la Bible peut être lue, etc. Donc on voit que les langues n'ont pas été une barrière pour Dieu, mais Dieu a dit, bah ces langues-là, je vais toutes les utiliser pour que les hommes de toute culture, de toute nation puissent entendre l'Évangile dans leur langue et venir à la connaissance de qui je suis et de qui est Jésus-Christ. Donc on voit que ce qui s'est passé à Babel, eh bien ça a été totalement inversé à la Pentecôte. Là où les langues divisées et où les langues séparées, là où il y avait un seul peuple qui a été dispersé et qui a du coup créé plusieurs peuples, eh bien là c'est des gens de plusieurs peuples dispersés qui viennent à Dieu et qui forment à partir de la Pentecôte un seul et même peuple. Et du coup, effectivement, grâce à cet accès de l'Évangile à tout le monde, eh bien, on peut continuer la tâche que le Seigneur a dite à ses disciples en Matthieu 9, verset 38. Eh bien, la moisson est abondante, il leur a dit. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et la Pentecôte, c'est une nouvelle fête des prémices qui annonce une autre grande moisson. La Pentecôte, c'était la fête des prémices, des premiers fruits que la terre produisait et que du coup on offrait à Dieu en signe de reconnaissance. Et c'est aussi un signe de confiance de donner à Dieu ses premiers fruits. Parce que bah, si jamais ensuite la récolte est ruinée, on n'a même pas les premiers fruits. Mais le peuple d'Israël devait donner les premiers fruits de sa moisson, de ses récoltes à l'Éternel. Et petit à petit aussi, on a associé la célébration du don de la loi à Moïse à cette fête de la Pentecôte. Et effectivement, Jésus a dit à ses disciples, eh bien, il y a une moisson qui est grande, il faut la rentrer, mais il y a peu d'ouvriers pour la rentrer. Du coup, demandez au maître de la moisson à qui elle appartient de donner des ouvriers. Et si Jésus utilise le thème de la moisson, il n'est pas fou, il sait très bien ce qu'il fait, il sait pourquoi il parle de la moisson, parce qu'il sait quand est-ce qu'elle va commencer. Et il sait que la moisson des âmes à faire rentrer, elle commence le jour où on célèbre les moissons de la terre, le jour où on fête la Pentecôte, la fête des prémices. Aujourd'hui encore, il y a une grande moisson. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes à faire rentrer. Et nous aussi, on est appelés à être des ouvriers pour le Seigneur. La grande moisson, elle a commencé avec les apôtres qui ont annoncé l'Évangile à tous à partir de la Pentecôte. Ils ont ensuite consigné le message du salut pour nous dans la parole. Et aujourd'hui, c'est sur ce message qu'on s'appuie pour continuer d'être témoins de Jésus-Christ et de permettre à d'autres personnes de le rencontrer. Les croyants de la Pentecôte, c'était eux les prémices. C'était eux les premiers fruits du travail des apôtres. C'était eux les prémices de la grande moisson qu'on continue encore de faire rentrer aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit il y a une grande moisson. Parce que Jésus sait que c'est à la Pentecôte, que c'est à cette fête-là où on fête les prémices des fruits de la terre que la moisson va commencer. C'est pour ça que Jésus prend ces termes agricoles. Il sait ce qu'il fait. Il veut que les disciples comprennent que c'est lié, ce qu'il leur a dit dans ce qui est consigné pour nous au chapitre 9 de Matthieu. Il veut qu'ils comprennent que ce qu'il leur a dit là, eh bien, ça rentre tout à fait en phase avec la fête des prémices de la moisson. À la Pentecôte, ce n'est pas seulement le retour des premiers fruits qu'on fête. À la Pentecôte, on célèbre les prémices du peuple que Dieu se construit à partir de cet événement-là. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Les 3000, c'est les prémices de tout ce qui va suivre, de toutes les conversions qui suivent encore aujourd'hui et qui suivront encore peut-être même après nous. Les 3000 qui se convertissent, ce sont les prémices. Pas les prémices des fruits de la terre, mais les prémices de cette moisson abondante pour laquelle on a besoin d'ouvriers. Et la venue de l'Esprit en chaque croyant lors de leur conversion, ben ça aussi, c'est les prémices de quelque chose d'encore plus grand qui reste à venir. Paul, à de nombreuses reprises, il a utilisé l'image des prémices, de l'acompte, de l'avant-goût que le Saint-Esprit est pour nous. Et du coup, le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, même si c'est exceptionnel, mais le Saint-Esprit, en fait, c'est juste le début. Il y aura plus que le Saint-Esprit. Il y aura plus que juste ça. On aura plus que simplement la présence de l'Esprit en nous quand on possédera tout ce qui découle de notre salut quand on sera auprès de Dieu. Jésus, quand il a quitté ses disciples, il leur a dit, Matthieu 28, les versets 16 à 20, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Il a dit ça à ses apôtres qui allaient commencer cette tâche d'évangélisation. C'est pas facile, hein. Si on était à la place des apôtres, Jésus est plus là, il est reparti, on sait qu'on ne le verra pas avant qu'il revienne. Il était mort, il est ressuscité, on l'a revu, mais maintenant on sait qu'on ne le reverra plus. On est dans une société qui nous est hostile, parce qu'on ne fait pas le culte des idoles, on ne fait pas le culte de l'empereur, on n'a pas non plus une religion qui est la religion juive et qui est acceptée par le gouvernement. On est dans une situation un peu d'entre-deux. Il y a des choses qui ressemblent au judaïsme, mais ce n'est pas le judaïsme, parce qu'on dit que le Messie est déjà venu. À la place des 12, c'était sans doute pas facile. Mais Jésus leur dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Du coup, ce que je vais vous dire de faire maintenant, je vous le dis parce que moi, j'ai tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Et du coup, entre guillemets, vous pouvez y aller avec l'esprit tranquille. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Les disciples, les apôtres, répondent à cet ordre missionnaire. On le voit avec la célébration de la Pentecôte. Ils font des disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie, ensuite jusqu'au bout du monde, à partir de la Pentecôte. À Jérusalem, ils annoncent l'évangile à des juifs qui sont venus de tous les coins du monde, et il y a 3000 personnes qui se convertissent. Et ainsi commence l'Église que Christ bâtit chaque jour. Nous, on fait partie de la moisson dont Jésus a parlé. Il y a une grande moisson. Il y avait une grande moisson au moment où Jésus était là, parce qu'il y avait tous les juifs qui étaient là autour de lui. Et nous, on fait encore partie de cette grande moisson qui avait besoin d'être rentrée. Et d'autres autour de nous font partie de cette moisson qui a besoin d'être rentrée. Et chacune de ces personnes, chacune de ces 3000 personnes, parce qu'elles n'étaient pas toutes de Jérusalem, eh bien chacune de ces 3000 personnes va rentrer dans son pays d'origine, dans sa région, là d'où elle vient, à Rome ou dans une autre des régions qui sont dites, en Libye ou en Mésopotamie, en Judée, etc. Chacun va rentrer chez lui et va ramener avec lui le message de l'Évangile. 3000 personnes se convertissent et le message de l'Évangile va se répercuter dans plein d'autres contrées, dans plein d'autres régions, parce que eux vont rentrer chez eux et vont témoigner de ce qu'ils ont vécu. Dieu, c'était le plus malin des missionnaires. Il a fait venir des gens de partout, il leur a donné le message, ensuite il les a renvoyés chez eux avec le message. C'est quand même super malin, hein, mine de rien. Alors c'est vrai que les apôtres, ils sont aussi allés dans le monde. Mais pour que l'Église commence, pour que cette moisson se fasse, il a pris des gens de toutes les nations, et tous ces gens de toutes les nations sont repartis dans leur propre nation avec le message de l'Évangile. Et ainsi s'accomplit l'ordre missionnaire de Jésus d'apporter l'Évangile jusqu'au bout du monde. Ce qui est aussi fait, et de manière peut-être encore plus particulière et caractéristique, par les apôtres, et notamment par l'apôtre Paul. Mais c'est une moisson d'âme qui a commencé ce jour-là. Et vous avez été, vous aussi, avec moi, moissonnés à la suite de ces âmes. Alors des fois, ça nous paraît très 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 loin, parce que 2000 ans, ça fait longtemps. Mais nous aussi, on est venus en continuité. Et pour que nous, on entende l'évangile, il a fallu que se passent les choses qui se sont passées il y a 2000 ans. Sans ce qui s'est passé à 2000 ans, sans qu'on mette tout par écrit, sans qu'il y ait des apôtres, sans qu'il y ait des personnes qui entendent l'évangile à Jérusalem et qui l'amènent chez eux et que petit à petit ça fasse un effet domino et que du coup l'évangile vienne jusqu'à nous, s'il n'y avait pas eu ça, l'évangile ne serait jamais venu jusqu'à nous. La Pentecôte, c'est aussi notre histoire. Parce que la Pentecôte, c'est l'histoire de comment est-ce que l'Église de Jésus-Christ a commencé à se bâtir et comment elle se bâtit chaque jour maintenant. Et on en fait partie. Et tous ces gens-là, ces 3000 personnes, ces étrangers qui sont venus à Jérusalem, c'est des gens de notre famille. C'est bizarre un peu peut-être, comme ça, de manière intellectuelle des fois à se dire, mais ces gens-là, ces prémices de la moisson, c'est notre famille. Et un jour, on les rencontrera. Alors, est-ce qu'on saura que c'était eux qui étaient dans les 3000, je ne sais pas. Mais un jour, on sera auprès d'eux avec le Seigneur. Aujourd'hui encore, on doit annoncer le message de l'Évangile. Il faut toujours des ouvriers dans la moisson, et c'est nous qui sommes appelés pour annoncer l'Évangile, c'est nous les ouvriers. Alors je crois que la manière dont on le fait, elle est différente pour tous. Il y a des gens qui sont à l'aise d'aller dans la rue, il y a des gens qui sont à l'aise de faire comme on sait, comme font certains frères et sœurs, d'aller visiter des migrants ou autres, des personnes qui ne vont pas forcément aller d'eux-mêmes à l'église. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir plus un témoignage dans leur voisinage, d'autres où ils auront plus un ministère dans leur famille. Mais il ne faudrait jamais que le message de l'Évangile reste prisonnier de notre bouche. Moi, je ne suis pas capable d'aller dans la rue parce que je suis absolument hyper nul dans la rue. Mais auprès des amis non-chrétiens que j'avais, ils ont entendu l'Évangile. Ils sont venus à l'église, on a discuté ensemble, on a prié ensemble parfois. Ils cheminent, ils réfléchissent. Ils se posent des questions, je fais confiance au Seigneur, mais voilà, on n'a pas forcément tous le même ministère au niveau de l'évangélisation, mais on est tous appelés à partager l'espérance qui est en nous. Et d'ailleurs, normalement, ça ne devrait pas être possible qu'on ne partage pas. Parce que si on a vraiment vécu la transformation de Jésus-Christ, ce n'est pas possible, normalement, de rester là, les doigts de pied en bouquet de violettes, à attendre que les choses se passent. Normalement, on devrait tous avoir envie de témoigner à quelqu'un ce qui nous est arrivé. Demandez au Seigneur de vous montrer de quelle manière il veut que vous le fassiez. Parce que, comme j'ai dit, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'est pas tous appelés non plus à la même chose. Le Seigneur en appelle certains dans la rue, d'autres ailleurs. Mais qu'on puisse partager ce message de l'Évangile pour que d'autres puissent venir à la connaissance de Dieu. On ne doit pas maintenir captif ou prisonnier le message de l'Évangile à cause de notre timidité, à cause de nos limites. Hein ? Moi, je sais que des fois je dis « Ah, mais Seigneur, c'est difficile parce que moi je suis timide. Hein. » Mais le Seigneur m'a fait comme ça, hein. Il n'était pas fou. Hein. Quand il m'a appelé pour devenir pasteur, j'ai dit, moi, devant tout le monde, jamais. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais avec le Seigneur. Mais je veux vraiment vous encourager à être disponible pour le Seigneur, pour les moments où il veut nous utiliser pour qu'on puisse annoncer l'Évangile. Qu'on ne soit pas non plus trop schématique, qu'on ne fasse pas des boîtes. Ah, lui, il n'est sans doute pas très chrétien, parce qu'il n'a jamais fait une Bible par foyer avec Axel le samedi matin. Donc, on ne sait pas trop, hein. Il n'est sans doute pas trop comme ça. Ah, leurs enfants, ils ne marchent pas très bien avec le Seigneur. Ils ne sont sans doute pas trop chrétiens. Hein. Ils ne doivent sans doute pas trop leur témoigner l'Évangile. Hein. Des fois, on met un peu des gens dans des boîtes comme ça, dans des cases. Peut-être que simplement, Georges, il a une manière de faire. Un jour, il m'a dit, moi, quand quelqu'un il entre dans ma voiture, il entend l'Évangile, voilà. Hein. S'il ne veut pas entendre l'Évangile, il ne faut pas qu'il vienne dans ma voiture. C'est une méthode et qui porte, entre guillemets, ses fruits, j'ai envie de vous dire, parce que... Quelqu'un comme Winter, par exemple, c'est parce que le Seigneur a utilisé Georges. Alors c'est le Seigneur. La gloire, elle ne revient pas à Georges. Elle revient au Seigneur. Mais il y a peut-être que tout le monde n'est peut-être pas disposé comme Georges. Moi, mon père, quand on faisait les courses avec ma sœur, à chaque fois qu'on était à la caisse, on s'enfuyait parce que mon père, il distribuait des feuillets de calendrier. Du coup, nous, on était là. Oh, Seigneur. J'ai évolué depuis, c'est bon. Ne me jugez pas. Mais on n'a pas tous la même manière de faire et je nous encourage à demander au Seigneur de nous montrer quelle est la manière avec laquelle il veut nous utiliser. Parce que le message de l'Évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les apôtres, ils auraient très bien pu dire « Ah nous on était là, on a vu Jésus, il nous a choisis, vous aviez qu'à être choisis, c'est votre problème. Hein. » Ils sont allés, ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont dit le message, ils ont fait face à la persécution, ils sont allés en prison, ils ont été dans les chaînes, ils ont été persécutés. Mais ils n'ont pas maintenu captif le message de l'Évangile, jamais. À aucun moment, parce qu'il y a une grande moisson et qu'il faut la faire rentrer. Et qu'on ne fera pas rentrer une grande moisson si on reste la bouche fermée. Et Dieu nous a tout donné pour qu'on le fasse. Il nous a donné l'esprit pour nous accompagner, pour nous parler, pour nous diriger, pour nous qualifier. Il nous a donné la parole pour qu'elle nous encourage, parce qu'on voit que quand on annonce l'Évangile, il y a des conversions. Alors 3000 ou pas, c'est pas la question. Moi, je veux bien donner toute ma vie à Dieu s'il y a juste une personne qui vient au Seigneur grâce à la manière dont il voudra m'utiliser. Il nous a donné les frères et sœurs aussi pour nous soutenir et pour œuvrer avec nous. C'est important aussi. On n'est pas tout seul. Les 12, ils ne se sont pas retrouvés tout seuls. Ils étaient 12. 13 après avec Paul. Et puis après, il y a eu des collaborateurs et tout ça. Il y a la promesse que Dieu a faite à ses apôtres qu'il les accompagne. Et si Dieu accompagne ses apôtres, il ne nous laisse pas tomber non plus. Dieu nous a permis d'avoir l'évangile dans des nombreuses langues pour que chacun puisse l'entendre, y croire et y adhérer de tout son cœur. Et surtout, il nous a donné Christ. Christ qui lui-même bâtit l'Église et qui nous dit, d'ailleurs en Matthieu 16 au verset 18, qu'il bâtira son Église et il dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Même si l'enfer s'ouvrait devant nous, nous n'avons rien à craindre. » C'est Christ qui est à la tête de l'Église. C'est lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a bâti. Et ça doit aussi nous décharger d'un certain poids. C'est pas à nous de faire des chiffres. C'est pas à nous de faire du résultat. C'est pas à nous de produire des conversions. Nous, on doit être des personnes qui sont prêtes à se laisser utiliser. On doit être des ouvriers disponibles. Et Dieu s'occupera de faire le reste. Mais si quelqu'un ne se convertit pas, c'est pas notre faute. Alors bien sûr, si on raconte n'importe comment le message de l'évangile ou qu'on ne dit pas le message de l'évangile, forcément les gens ne risquent pas de se convertir. Mais quand les gens se convertissent, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. Et quand les gens ne se convertissent pas, ce n'est pas à cause de nous. Il faut aussi qu'on s'enlève une certaine pression du résultat. Parfois, on a plus la pression de se dire « Ah oui, mais moi, si jamais personne se convertit alors que je leur ai témoigné, mais qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas et tout. » Et on se met plus de pression sur le résultat que de se dire « Est-ce que j'ai été fidèle à Dieu dans l'annonce de l'Évangile ? Est-ce que j'ai dit l'Évangile comme il doit être dit ? Est-ce que j'ai raconté l'Évangile comme il doit être raconté ? Est-ce que j'ai dit aux personnes autour de moi qu'elles sont perdues parce qu'elles sont pécheresses depuis leur naissance et qu'elles sont séparées de Dieu parce que Dieu est en colère contre elles à cause de ça ? Et est-ce que j'ai eu le courage de leur dire bah, « Si tu ne crois pas en Dieu, bah, tu seras séparé de lui éternellement et tu iras en enfer ?» Et est-ce que aussi, j'ai eu toute la sagesse, parce qu'il ne faut pas juste dire l'enfer, hein, est-ce que j'ai eu toute la sagesse de leur dire « Dieu aime ses créatures et son désir, c'est qu'elles soient réconciliées avec lui. » Et pour ce faire, il a envoyé Jésus-Christ. Les apôtres, ils ont parlé de Jésus-Christ. Il faut qu'on en parle nous aussi, autour de nous. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui est à la tête. Moi, je ne suis pas à la tête de l'Église. J'ai la responsabilité de l'Église ici, en tant qu'institution sur cette terre. Mais le chef de l'Église, celui qui est mon patron, au-dessus de l'AEI d'ailleurs, c'est Christ. C'est son Église à lui. Et on peut lui faire confiance. Lui, il n'est pas là à nous regarder du haut du ciel, genre, est-ce qu'il se débrouille bien ? Ça va. Dieu s'occupe tous les jours de son Église. Christ est à la tête de son Église et les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre l'Église. Nous n'avons pas besoin d'avoir de crainte parce que Christ est avec nous. On voit ici, avec ce texte qu'on a lu ensemble, que la Pentecôte, elle accomplit vraiment ce que Jésus avait dit. Il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit et du coup vous deviendrez mes témoins. Vous raconterez tout ce que j'ai fait, ma mort, ma résurrection. » Et c'est ce qui se passe. À Babel, Dieu y voit qu'il y a un seul peuple qui parle une seule langue, il brise ce peuple, il les éparpille, il leur donne des langues différentes, c'est un jugement, c'est une punition sur eux. À la Pentecôte, Dieu y fait venir des gens éparpillés à Jérusalem, il utilise leurs langues toutes différentes pour leur annoncer à tous un même message, pour qu'ils connaissent tous le même Seigneur et qu'ils aient accès tous au même héritage. Et finalement, en ce jour de Pentecôte, on peut célébrer les premiers fruits de la moisson dont Jésus a parlé. Ces 3000 qui se sont convertis, qui sont nos frères, nos sœurs en Christ. Et on peut célébrer en même temps l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, qui s'est choisi et qui s'est construit lui-même. À partir de là, l'Église de Jésus-Christ se construit. Et elle continue de se construire et elle continuera de se construire jusqu'au jour où on sera avec lui pour l'éternité. Il y a un quatrième point que j'aurais aimé traiter avec vous, mais je le réserve pour une prédication à part entière, parce que ça vaut toute une prédication. Et que de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui prêche vite, donc vaut mieux pas que je mette un autre point. Mais un jour, j'aimerais vous parler aussi de comment est-ce que il y a. J'aimerais pouvoir vous aider à voir tous les parallèles qu'il y a entre l'alliance que Dieu fait au Sinaï avec Moïse et avec son peuple, et l'alliance que Dieu fait ici à la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu s'engage par cette alliance nouvelle en Jésus-Christ avec nous. On est en alliance avec Dieu, on lui appartient, on est ses enfants, rien ne peut nous ravir de sa main. Et du coup, je vous encourage à ce qu'on puisse louer Dieu pour son œuvre dans le cœur des hommes et des femmes de toutes les nations. Ici, je pense qu'on est assez représentatif du fait que c'est bien toutes les nations qui viennent au Seigneur. Je ne pense pas qu'on puisse le cacher ou essayer de mentir sur ce point ici. Qu'on puisse demander à Dieu de nous équiper pour qu'on puisse nous aussi témoigner de l'Évangile à d'autres personnes. Qu'on puisse lui demander de quelle manière est-ce que nous, on est appelés à le faire. Qu'on puisse intercéder pour ceux qui consacrent leur vie à l'annonce de l'Évangile, parfois même dans des conditions extrêmement risquées, au péril de leur vie. Et surtout qu'on puisse demander à Dieu de nous donner des occasions de témoigner. Ça nous engage de faire ça. Parce que si on demande à Dieu des occasions de pouvoir témoigner, on aura des occasions de pouvoir témoigner. Alors soyons prêts pour le faire. Et n'ayons pas de crainte parce que Christ est avec nous. Christ nous accompagne, c'est son Église, c'est son œuvre, c'est lui qui l'a construit. Et nous, on peut simplement lui faire confiance. Et regarder ce qu'il fait au travers de nous. Parce qu'il avait envie de travailler avec nous, il a eu envie de nous utiliser et il le fait. Que toute gloire puisse revenir à Dieu pour tout ce qu'il fait, chaque jour, dans le cœur des hommes et des femmes qui se tournent vers lui. Je vais prier pour conclure. Père éternel, je veux te dire merci. Merci parce que ta parole, elle est vraie. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu promets quelque chose, tu l'accomplis. Quand tu dis que quelque chose va arriver, tu fais arriver cette chose-là. Ce n'est pas que tu regardes l'avenir et tu sais lire l'avenir. C'est que l'avenir, c'est toi qui l'écris. Et du coup, quand tu as dit que le Saint-Esprit allait venir et que les apôtres seraient les témoins, eh bien, tu l'as fait. Et ils ont rempli leur tâche de témoin. Ils ont témoigné. Ils ne sont pas restés silencieux, mais ils ont parlé. Et 3000 personnes sont venues au salut. Des personnes qui ont emmené le message de l'Évangile avec eux chez elles. Des personnes qui ont pu parler, elles aussi, de ce qu'elles avaient entendu. Et je te remercie parce que ce qui s'est passé dans tous ces temps bibliques, ça a été consigné pour nous dans l'Écriture. Et aujourd'hui, nous aussi, on peut te connaître au travers d'elles. Je te remercie, Père éternel, parce que tu as envoyé des ouvriers pour nous faire rentrer, nous, ta moisson. Je te remercie parce qu'elle a commencé avec la Pentecôte, avec ces 3000 personnes, et elle continue encore aujourd'hui. Et elle va encore continuer jusqu'à ce que ton Fils revienne glorieux sur les nuées pour chercher tous ceux qui lui appartiennent et pour juger les vivants et les morts. Je te remercie, Père éternel, parce que nous pouvons avoir pleinement confiance en toi lorsque nous aussi nous parlons de l'Évangile à quelqu'un d'autre. C'est pas notre capacité notre manière de parler, c'est pas notre sagesse, c'est pas ces choses-là qui feront que quelqu'un va se convertir ou non. Ça dépend pas de nous, ça dépend de toi. Je te remercie de faire de nous tes ouvriers dans la moisson, qu'on puisse être des ouvriers fidèles, des personnes qui sont prêtes à parler, à ouvrir leur bouche. Veuille, Père éternel, nous équiper, nous accompagner. Merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Dirige-nous et donne-nous sagesse et courage pour annoncer l'Évangile, pour que d'autres puissent entendre ce message, puissent le ramener chez eux, dans leur famille, auprès de leurs amis, et que, par effet de domino, entre guillemets, eh bien, d'autres encore puissent entendre l'Évangile. Nous remettons tout entre tes mains, et je veux te dire que nous avons confiance en toi, entièrement, pleinement, et nous savons que Jésus-Christ est à la tête de l'Église, nous savons qu'il l'a bâtie, et nous savons que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, jamais. Je te remercie, Père éternel, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas encore faire. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen.
Avec le prochain chant, je vous propose de le chanter comme une prière. Tu as dit de demander. Alors, nous voici. Nous demandons ton esprit. Ce chant qui dit qu'avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins. Il dit jusqu'au bout de la terre, mais ça peut être juste à nos portes aussi. Nous aurons ta puissance pour vaincre la chair. Thank you.
Thank you.